Europe 1, votre matinale info. Thierry Dagiral.
Et voici votre premier journal de cette matinée. Bonjour Marguerite Lefèvre.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Europe 1, il est 6h.
On a une situation épidémique très tendue à Dunkerque. On est très attentif, très vigilant pour que tout ce qu'on puisse éviter puisse être évité.
Éviter les clusters lors de fêtes clandestines. À Dunkerque, la police traque les rassemblements alors que les contaminations sont en hausse. Les carnavaliers déçus rongent leurs freins.
Le gouvernement débloque 1 milliard d'euros pour lutter contre les cyberattaques. Elles se multiplient ces dernières semaines dans les hôpitaux. Ce sera le dossier de ce journal.
Le Tour de France d'Anne Hidalgo. Avant de se lancer officiellement, la maire de Paris teste sa popularité à un an de la présidentielle. Début poussif à Nancy hier.
Enfin, il est sans doute le meilleur rugbyman au monde et la France va devoir s'en passer pour le prochain match. Antoine Dupont est positif au Covid.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
En temps normal, c'est une ville qui se transforme en immense fête chaque week-end pendant 3 mois. Cette année, Dunkerque a dû annuler son célèbre carnaval.
Pas de lancer de harangues, pas de chapelle ni de rigodon. Cette année, les festivités sont reportées. Et malgré cette précaution, les contaminations sur place sont en train de flamber. Plus de 700 cas pour 100 000 habitants.
Le dépistage massif organisé depuis jeudi va se prolonger en début de semaine prochaine. D'ici là, la police continue de traquer le moindre rassemblement. Reportage à Dunkerque de Maximilien Carlier.
La place Jean-Bart est quasi vide. Des policiers dans chaque rue.
Monsieur, bonsoir.
Contrôle du couvre-feu, contrôle des automobilistes.
Vous partez travailler ?
Victor rentre chez lui. Pas de clutch, pas de déguisement. La fête ce soir, surtout pas.
Bon, on n'essaye pas parce qu'on s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Et bah, les forces de l'ordre, ils nous le disent assez souvent. Donc à chaque fois qu'il y a des choses qu'ils organisent, bah, ils sont là. Donc ils empêchent que les gens ils s'amusent. Quoi.
Forcément, l'objectif, c'est d'éviter ces groupes festifs dans la rue, comme il y a pu en avoir la semaine dernière. Julien Sauté, commissaire de police à Dunkerque.
C'était des petits rassemblements les uns après les autres, des gens qui sont venus déguisés. On est à peu près sur 200 personnes, mais qui n'étaient pas en même temps tous ensemble, évidemment.
Pas de bande sauvage comme on peut voir lors du carnaval habituel. Les autorités serrent la vis ici. Il faut dire que le variant anglais est devenu incontrôlable. Hervé Tourmente, sous-préfet de l'arrondissement.
On a une situation épidémique très tendue à Dunkerque, un hôpital qui est au bord de la rupture. On est très attentif, très vigilant pour que tout ce qu'on puisse éviter puisse être évité.
Mais avec le début des vacances scolaires, une météo clémente ce week-end, il pourrait y avoir du monde sur le littoral. Brassage, mouvement de personnes, va-et-vient, à éviter, c'est en tout cas ce que recommande la préfecture. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et en Ile-de-France, la préfecture de police de Paris mobilise 4000 policiers et gendarmes d'ici dimanche soir. Les autorités veulent éviter les rassemblements lors de ce week-end printanier. Hier, un peu plus de 24 000 nouveaux cas de Covid ont été détectés en France. On se trouve toujours sur ce plateau très haut. Emmanuel Macron décidera d'ici 8 à 10 jours d'alléger ou bien de renforcer les restrictions. Voilà ce que le chef de l'État a dit hier soir à certains parlementaires de sa majorité.
Emmanuel Macron qui s'est penché il y a 48 heures sur un dossier ultra sensible, celui des cyberattaques qui se multiplient ces dernières semaines, Marguerite.
Et qui touchent en ce moment les hôpitaux, Rouen, Dax, Villefranche-sur-Saône. À chaque fois, les données informatiques sont cryptées, l'accès au dossier est impossible. Bref, toute l'activité de l'hôpital est paralysée. Emmanuel Macron a annoncé le renforcement des systèmes de sécurité.
Et on est avec Aude Leroy, notre spécialiste sécurité. Aude, qui sont ces cybercriminels ?
Eh bien, c'est une nouvelle pègre avec ses codes, son opacité, sa méfiance, composée de francs-tireurs, très en pointe informatiquement, très concentrés dans les zones russophones, comme l'explique Jérôme Billois, cyber-expert au cabinet Wavestone.
Ce sont des personnes qui ont un haut niveau d'études. On sait que la qualité des études en mathématiques, en informatique dans ces pays est élevée, et malheureusement des faibles niveaux de revenus, et donc ça les incite à tomber dans la criminalité cyber. Ce sont donc des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, qui peuvent pour certains avoir des vies tout à fait normales et qui, dans la journée, eh bien, pratiquent des actes criminels.
Ces cyberpirates se sont tellement professionnalisés que depuis 2-3 ans, certains ont structuré leurs activités avec celui qui fabrique le virus, celui qui lance l'attaque, créant ainsi des PME du cybercrime.
Les principaux groupes comme Reveal ou Ryuk encore, ce sont des dizaines de personnes qui se coordonnent et qui agissent ensemble pour à la fois construire les outils d'attaque et puis ensuite eh bien, réaliser ces attaques et aller jusqu'à l'étape du paiement et de la libération des données.
Oui, le paiement, car l'attaque numéro un, c'est de chiffrer les ordinateurs et de réclamer une rançon qui peut se compter en millions, les fameux rançongiciels, et les sommes sont à verser en bitcoin, une monnaie qu'il est difficile de tracer.
Aude, on a l'impression que la France est particulièrement ciblée ces derniers temps, est-ce que c'est vrai ?
Eh bien, tout le monde est visé. La technique des cybercriminels, c'est de lancer le virus comme un filet de pêche, tous azimuts, et d'entrer dans les endroits vulnérables, là où il y a des failles. Et c'est pour ça que ça peut tomber dans un hôpital, une administration ou une entreprise. En fait, c'est de l'opportunisme. Alors, les experts ont repéré que ces criminels peuvent travailler soit pour leur propre compte, soit pour un État qui se cacherait derrière eux, les mercenaires, pour faire de l'espionnage industriel, par exemple, ou truquer une élection.
Aude, comment faire pour tenter de lutter ?
Eh bien, le gouvernement vient de mettre 1 milliard d'euros pour développer la sécurité informatique, pour contrer ou aller plus vite que les cyberpirates, en plus des bons gestes d'hygiène à avoir. Et la consigne des autorités en France, c'est comme pour une prise d'otage, on ne paye pas.
Merci beaucoup Aude Leroy, spécialiste sécurité d'Europe 1. Et notez que cette question, eh bien, on l'évoquera amplement à 8h15, puisque je recevrai le secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Europe 1. 6h05.
À Pau, un homme est toujours en garde à vue ce matin. Il s'agit d'un ressortissant soudanais qui a tué hier à coup de couteau le responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect devait quitter le territoire. Écoutez le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place hier soir.
L'OFPRA avait alors refusé sa demande d'asile, mais la CNDA, c'est-à-dire la justice administrative, avait autorisé sa présence sur le territoire national. Puis effectivement, manifestement, a connu des démêlés avec la justice puisqu'il a été condamné suite à, je crois, une rixe à arme blanche. Il a effectué sa peine de prison. Et puis, suite au signalement du préfet du département, il a été convoqué deux fois par les services du ministère de l'Intérieur pour pouvoir lui dire qu'il devait quitter le territoire national. Il ne s'est pas rendu à ces convocations. Et c'est sans doute en attendant une prochaine convocation, dans l'attente de la prochaine convocation, lui décidant, parce qu'il avait justement commis un fait et qu'il avait été condamné par la justice, et que les consignes que je donne, c'est que les gens qui ont été condamnés pour des crimes et délits doivent quitter le territoire national. C'est parce qu'il devait quitter le territoire national, parce que l'OFPRA devait lui dire qu'il revenait sur la décision de rester sur le territoire national. Sans doute qu'il est venu ici, mais je crois que la procureure de la République aura l'occasion de détailler les motivations s'il y en a.
Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au micro de notre envoyé spécial à Pau, Benjamin Peter. Patrick Poivre d'Arvor se dit révolté par l'enquête pour viol ouverte contre lui. Il s'est exprimé hier soir sur son compte Facebook. « De toute ma vie, je n'ai jamais obligé quiconque à une relation sexuelle. » Voilà ce qu'écrit l'ancien présentateur du 20h de TF1.
La politique à présent, Marguerite, c'est un premier déplacement pour tester sa popularité. Anne Hidalgo a entamé hier un tour de France à un an de la présidentielle.
Oui, la maire de Paris n'est pas officiellement candidate, mais en tout cas, elle prépare le terrain. Hier, elle était à Nancy et Claudia Bertram était sur place pour Europe 1.
Anne Hidalgo l'assure, même en visite à Nancy, non, ceci n'est pas une campagne pour la présidentielle. Mais on n'est pas obligé de la croire, donc une fois encore, elle le répète.
Je veux prendre ma part, il ne s'agit pas d'une déclaration de candidature.
Prendre le pouls hors de la capitale, tester sa popularité au-delà du périphérique parisien. Pour cela, le Tour de France d'Anne Hidalgo débute dans une municipalité amie, socialiste, où les commerçants à deux pas de la place Stanislas observent la manœuvre.
Journée de travail apparemment. La proximité, c'est donc c'est important qu'elle aille partout, c'est vrai pour tout candidat.
Les soignants de l'hôpital, les étudiants, Anne Hidalgo échange avec la population de Nancy et tente de rompre avec son image de parisienne.
Les parisiens, la majorité d'entre eux sont nés ou issus de familles dans toutes les régions de France. Moi j'ai grandi à Lyon, je suis née en Espagne.
Une image qui pourtant lui colle à la peau.
Moi je la connais juste en étant le maire de Paris. Sinon ce qu'elle fait et ce qu'elle représente, je ne suis pas trop au courant.
J'ai plutôt un a priori positif, mais je ne suis pas parisienne, je ne fais pas tellement attention. En fait, je ne la connais pas.
Un cadre du PS s'interroge, va-t-elle réussir à parler au-delà de Paris aux gens qui étaient sur les ronds-points ? C'est bien l'un des enjeux d'Anne Hidalgo pour 2022. Nancy, Claudia Bertram, Europe 1.
Et on passe au sport à présent. En rugby, il est le joueur que le monde entier nous envie. Le demi de mêlée Antoine Dupont va manquer le prochain match du tournoi Destination.
Il est positif au Covid. Comme le sélectionneur Fabien Galthié et comme deux autres membres du staff, il est placé à l'isolement. Les Bleus aujourd'hui redoutent d'autres contaminations, Simon Rubin.
Pour l'heure, le 15 de France évite la vague de Covid tant redoutée. Sur les 12 premiers tests dont les résultats sont parvenus à la Fédération française, 11 sont négatifs. Parmi les joueurs qui, pour l'instant, passent entre les gouttes, le capitaine Charles Olivon et une bonne partie des avants. Pour eux, la suite du programme est simple. Retour à Marcoussis, le centre d'entraînement, demain pour un nouveau test PCR en espérant confirmer qu'ils sont bien aptes pour jouer. 11 joueurs négatifs donc, mais un joueur positif et pas des moindres puisqu'il s'agit du meilleur meilleur joueur, Antoine Dupont, le demi de mêlée, star du tournoi, qui est positif asymptomatique. Il va rester à l'isolement dans les prochains jours et quoi qu'il arrive, il ne participera pas au match du 28 février contre l'Écosse. Pour l'heure, le bilan n'est donc pas si terrible pour le 15 de France. Mais la fédération attend encore d'autres résultats. Bien sûr, il en manque 19.
En football, Lyon a repris hier soir la tête du championnat après sa victoire 3-2 contre Brest. Ce soir, on suivra deux rencontres. Saint-Étienne-Reims, c'est à 13h. Et puis Nantes-Marseille à 17h.
Et puis, Marguerite, la nouvelle a attristé une bonne partie de l'Angleterre et vous-même. On a donc appris hier que le prince Harry et son épouse quittaient définitivement la monarchie.
Ouais, après une année de transition aux États-Unis, leur décision prend effet. Ils perdent tous leurs titres officiels, mais certainement pas le cœur des Britanniques. À Londres, Anaïs Cordoba.
Cette nouvelle n'est pas une surprise, mais c'est un coup dur pour la famille royale. Elle perd le prince chouchou des Anglais qui incarnait avec Meghan la modernité et le renouveau de la monarchie. Mais le couple aurait voulu trop d'indépendance. Harry et Meghan refusent notamment la pression médiatique autour de leur vie privée. Un choix que comprennent cependant de nombreux Anglais comme Manuel et Tom.
Ils étaient harcelés par les médias et les tabloïds et ils s'acharnaient contre Meghan, peut-être parce qu'elle est métisse, qu'elle est américaine ou qu'elle n'a pas le profil habituel. C'est dommage, ça faisait du bien de voir quelqu'un comme elle dans la famille royale.
Harry vit sous le feu des projecteurs depuis toujours, quand il a fait ses premiers pas, quand il s'est marié. C'est dur pour n'importe qui, alors s'il ne veut pas de cette vie, ça ne devrait pas lui être imposé.
Mais ce n'est pas l'avis de Tina, qui espère qu'un jour, Harry revienne au sein de la monarchie.
Harry est né au sein de la famille royale et maintenant il abandonne sa famille et son pays pour Meghan. Elle a de grandes ambitions, elle a épousé un prince britannique juste pour entrer aux États-Unis. Et devenir riche. And make
millions. En quittant la famille royale, le couple perd ses patronages caritatifs et Harry doit renoncer à tous ses titres militaires. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Enfin, ce sont des airs qui ont marqué des générations entières. Les chansons de la comédie musicale Émilie Joly, écrite par Philippe Châtel, dont on a appris le décès hier à 72 ans.
Oh, qu'est-ce qui pique ce rire sans moi ? Oh, qu'elle est triste sa chanson.
Alors, le hérisson chanté par Georges Brassens, écrit, composé bien sûr par Philippe Châtel. Sachez que dans le journal de 8h, on recevra Julien Clerc, un autre interprète d'Émilie Joly, bien sûr. Merci beaucoup, Marguerite Lefebvre. Retour de l'information à 6h30.